Donc j'ai le plaisir de présider ce deuxième moment de ce colloque, la fin des empires avec un point d'interrogation très important. Et donc je vais tout de suite donner la parole à Didier Galibert, qui est chercheur au CEAN de Bordeaux et qui va nous faire une conférence de 40 minutes, donc un temps très, très important, mais que je surveillerai sur la fin. Le titre de votre intervention, c'est « Tradition parfaite et négociation de l'État postcolonial, l'Académie malgache à l'épreuve de la décolonisation 58-2002 ».
Tout à fait. Voilà. Merci. L'Académie malgache est créée le 23 janvier 1902 par un arrêté du gouverneur général Gallieni, lequel accueille la réunion inaugurale dans le grand salon de la résidence générale le 27 février suivant. Cette société savante s'insère dans la série de ces institutions destinées à élargir et à formaliser une science impériale pour l'Afrique, pour reprendre la formule d'Emmanuel Siebeut, postérieure d'une année à celle de l'école française d'Extrême-Orient, la fondation de l'Académie s'insère dans la dynamique de construction de l'érudition coloniale, tout en présentant la singularité d'une rencontre officielle entre les premiers chercheurs de terrain européens et la tradition des lettrés de la cour du royaume Mérne. La célébration du centenaire de cette société savante, inaugurée le 23 juillet 2002, en présence du président Marc Ravalomanen, dans un contexte encore troublé par la crise post-électorale associée à son installation à la tête de l'État, traduit cependant le potentiel de résilience considérable de l'institution. À la charnière des années 50 et 60, l'Académie apparaît comme un lieu central des idées et des pratiques caractérisant le retrait contingent et consenti, décrit par Babank et Cooper. Je reprends l'un des intertitres de l'ouvrage « Empires of Development and the Development of Nations », s'agissant bien sûr des empires coloniaux africains de la France et du Royaume-Uni avant tout. On évoquera d'abord le caractère opératoire des tensions affectant le jeu impérial sur l'identification et la différence. Ce dernier offre un espace idéologique et social pour la création d'une communauté de communication susceptible de fournir le répertoire du discours politique associant la transmission de l'État colonial et celle de l'idéal du développement. Le deuxième temps de l'exposé s'attachera à cerner une autre facette de la négociation de l'État postcolonial, caractérisée par un ensemble de transactions avec le caractère de plus en plus clientéliste de l'exercice du pouvoir à Madagascar. L'Académie malgache offre à ce pouvoir la caution du maintien d'un espace social de débat tourné vers le bien public, apparaissant comme un isolat prestigieux, mais déconnecté très largement des bricolages notabilières à l'origine de la multiplication des crises politiques. On évoquera enfin l'ambivalence très réelle de cet espace public résiduel au sein d'une société disloquée, livrée désormais en quelque sorte à Dieu et à diable au jeu des exclusions, à l'image de beaucoup d'États de l'Afrique subsaharienne toute proche. Premier temps de mon propos, donc, résilience impériale et transmission de l'État. En 1958, l'élection du premier président malgache de l'institution, Paul Radaoudi Relarouchi, médecin à l'Institut Pasteur de Tananarive, fait figure de repère principal dans un processus transversal par rapport à la date de l'indépendance politique, deux ans plus tard. Au sein de la stratégie de transmission de l'État, L'Académie apparaît d'abord comme un lieu emblématique de renégociation morale de la rencontre coloniale, premier maillon de la concaténation entre le colonial et le postcolonial. Cette renégociation passe d'abord par une assimilation réciproque effective des scientifiques du territoire, je reprends le terme officiel, accédant au statut d'État-nation, bien que l'application académique de cette malgachisation des cadres, en quelque sorte, se fasse lentement. À la fin de l'exercice de 1960, nous sommes donc déjà dans le temps de l'indépendance officielle, il n'y a que 7 membres titulaires malgaches sur 23, et ils sont majoritairement médecins. Les communications sur la langue et sur l'histoire malgache sont ainsi faites par des étrangers, français ou missionnaires, norvégiens, britanniques, alors même que l'élite des érudits malgaches contemporains figurait parmi les membres fondateurs en 1902. La construction historique d'une tradition parfaite, pour reprendre la formule de Bertrand, bien sûr, coloniale, associant l'hégémonie du régiolecte Mirn et le rôle structurant de la monarchie tananarivienne dans la définition d'une identification globalisante, ayant ouvert la voie au nationalisme moderne, n'est manifestement pas exempte, pardon, de contradiction. On se bornera ici à constater que la représentation des lettrés malgaches, majoritairement des évangélistes ou des pasteurs protestants, issus de l'Église officielle précoloniale, fondée par la LMS, la London Missionary Society, a eu tendance à reculer au fur et à mesure de l'avancement du moment colonial. De plus, la cooptation académique occulte mal l'hégémonie du français et les ruptures de carrière absolument considérables entraînées par la conquête, en conformité avec l'analyse selon laquelle la colonisation suscite un bricolage social tissé de sociabilité inégalitaire et de construction de langage tiers sur fond d'intérêt à court ou à très court terme. Les quelques malgaches cooptés en 1902 partagent la condition d'intermédiaire des anciens musiciens de la cour, recyclés dans l'orchestre du gouverneur général et dans la société philharmonique fondée par des cadres coloniaux. À l'Académie, les membres malgaches fondateurs interviennent fort peu dans des débats organisés dans une langue étrangère qu'ils maîtrisent en fait beaucoup moins bien que l'anglais. Ce sont des hommes d'âge mûr, anciens dignitaires d'une monarchie dont ils ont partagé les fastes pendant plusieurs décennies. Rabesianaka avait atteint, par exemple, le statut de gouverneur de province à la veille de la conquête. Celle-ci fait de lui un employé de commerce dans une société de traite, puis un épicier de la capitale. Rassanzi était secrétaire particulier du Premier ministre. Quant à Anjamifidi, pour clore ici la série, il a servi comme ministre des Affaires étrangères sous 2 règnes. À l'apogée de l'Empire, l'Académie est donc un cénacle où se nouent surtout des débats entre Français, imbriqués dans le malentendu opératoire noué avec des dominés sous surveillance. Lorsque vient le temps des indépendances, le cas de l'académicien Albert Rakut Ratsimamang conduit jusqu'au paroxysme cette logique de renégociation graduelle des ajustements inégaux de la colonisation, traduite par un certain flottement des identifications politiques et par une circulation plus fluide des hommes entre la métropole impériale en instance de départ et sa périphérie insulaire. Petit-fils d'un oncle maternel de la reine Ranaval III, Rakut Ratsimamang est exclu, de facto, du bénéfice du décret Falière de 1909 concernant l'accès des Malgaches, dits évolués, à la nationalité française. Il arrache cependant, en quelque sorte, les bases d'une citoyenneté impériale balbutiante et paradoxale, concrétisée par son très difficile départ en France comme médecin indigène de la délégation malgache à l'exposition coloniale de 1931, puis surtout par un cursus médical parisien repris en première année, une thèse de biochimie et un poste de directeur de recherche au CNRS, ceci dès 1944. Membre de la délégation malgache chargée de négocier les accords de coopération et premier ambassadeur de la République malgache en France, de 1960 à 1973, Rakut Ratsimamang est autorisé à cumuler sa charge avec son poste au CNRS. Le bulletin de l'Académie malgache nous enseigne qu'il n'est admis en fait dans l'institution qu'en 1960, année de sa prise de fonction, en tant que, je cite, « haut représentant de Madagascar à Paris », c'est encore le temps de la communauté, avec un statut, nouvelle citation, de membre français. Ce qualificatif est d'autant plus chargé de sens qu'il s'agit d'une erreur manifeste, Rakut Ratsimamang n'ayant accédé à la double nationalité que par son mariage avec une collègue française de son laboratoire en 1963, Anne Urwerg. Privé de son ambassade parisienne par la révolution nationaliste de 1972, il rentre à Madagascar où il ne vivait plus en fait depuis une quarantaine d'années. Il y accepte son nouveau rôle de père fondateur d'une biologie médicale nationale autour de l'Institut de recherches appliquées qu'il a fondé à Tananarive en 1957 avec son traitement de directeur de recherche au CNRS et avec ses contacts parisiens. La première décennie de l'indépendance se traduit pour les académiciens nationaux par un chevauchement accéléré des carrières scientifiques et administratives dans une logique d'emploi des compétences qui tient encore relativement en lisière celle de la rente étatique. Le répertoire du discours scientifique et technique, axé sur l'inventaire des ressources, reste celui du développement. La mise en récit est simplement devenue nationale. Malgré les ouvertures institutionnelles de la transmission de l'État, les limites de cette remise en cause de la situation coloniale, pour reprendre une formule bien connue, sont cependant marquées par l'absence de bilinguisme dans le déroulement des séances et dans la rédaction du bulletin même de l'Académie, au-delà de ce que les Malgaches appellent communément la deuxième indépendance de 1972. Quand je dis les Malgaches, je me réfère surtout à l'intelligentsia, plus particulièrement à Tananarive, mais pas seulement. L'usage de la langue malgache comme langue de travail ne connaît un début de formalisation qu'à l'occasion de la publication du numéro spécial de 1977 relatif au 75e anniversaire de l'institution. Une partie minoritaire des articles se consacrait à la langue malgache elle-même et rédigée en malgache avec des résumés en français. Tous les articles en français sont par ailleurs assortis d'un résumé en malgache. Je passe au deuxième temps de mon propos. Une arène de transactions avec l'État clientéliste. À partir des années 70 et 80, s'amorce une patrimonialisation des membres nationaux les plus anciens, lesquels font désormais figure de héros fondateurs, assortis d'un gonflement des effectifs causé par une large ouverture à la première génération succédante aux fondateurs français de l'Université Charles de Gaulle, à Tananarive. L'écart se creuse entre la pérennité du respect des règles antérieures importées d'osage de cooptation et de suffrage propres à toutes les sociétés savantes et la généralisation des falsifications et du factionnalisme propres aux échanges clientélistes de l'État garde-barrière. Cette évolution est soulignée en creux par la différence des pratiques du personnel politique, le président Philibert Tsirène, ancien professeur assistant à l'école Lemire de Villers, avait installé l'usage de visites impromptues, donc l'homologue de l'école William Ponty en quelque sorte, des visites impromptues qui étaient dictées par le plaisir de s'instruire sur les choses malgaches. Didier Ratsiraka, quant à lui, ancien élève du lycée Henri IV et de l'école navale de Brest, évite ne serait-ce que les apparitions protocolaires. Par son origine impériale, par l'horizon scientifique français et anglo-saxon de ses membres, l'Académie est à la fois un héritage encombrant de la colonisation et une récapitulation de l'ambiguïté culturelle non assumée des dirigeants issus de la révolution nationaliste de 1972. Le nouveau chef de l'État cantonne l'institution à un rôle de caution symbolique du maintien de l'idéologie du développement, tout en tenant la plupart des académiciens à l'écart des positions de captation les plus avantageuses de la rente étatique. Le caractère profondément hiérarchique, pour reprendre une formule reprise en particulier par Polotino, de la société malgache, antérieurement à la rencontre coloniale, facilite ce confinement réticulaire du discours sur le développement. Dans une cellule notabilière, décrocher des réalités confuses de l'arène politique nationale tout au long des deuxième et troisième républiques. Cette occultation objective du recul de l'État développementiste est euphémisée par le continuum apparent de la construction d'un discours nationaliste sur le savoir. Celle-ci s'appuie en premier lieu sur le juridisme d'une accentuation progressive de l'orientation utilitaire des missions de l'Académie, telles qu'elles sont redéfinies par les décrets de 1969 et de 1993. Celui de 1969 crée quatre sections spécialisées, dont l'une consacrée précisément aux sciences appliquées, tout en plaçant l'Académie sous la tutelle symbolique du chef de l'État. Le décret de 1993, quant à lui, change la dénomination de l'institution en Académie nationale des arts, des lettres et des sciences. Cette pluridisciplinarité officielle achève, en quelque sorte nominalement, le processus d'éloignement, d'écart, par rapport à l'orientation philologique et folkloriste d'origine, démentie, en fait, progressivement, dès les années 20. Elle est assortie d'un nouveau resserrement théorique du contrôle étatique par l'établissement de la tutelle administrative du Premier ministre et le contrôle, tout théorique également, du ministère des Finances sur le budget. L'énonciation d'une mise en synergie des compétences par l'État est associée à la construction patiente d'un panthéon scientifique national. Celle-ci adopte d'abord une logique de mise en valeur rétroactive de travaux d'érudits plus ou moins tenus en lisière par la science impériale, sans aucune minoration des travaux d'érudition européens. Il s'agit d'infléchissement plus que de réhabilitation, parce que le filtre colonial de l'entre-deux-guerres a procédé avec finesse. Les pasteurs dirigeant l'équipe de rédaction du Bukifira Ketna, le dictionnaire encyclopédique malgache unilingue, qui commence de paraître en 1937 sous forme de feuillet, dispose d'une reconnaissance officielle qui est inversement proportionnelle aux sympathies nationalistes qui leur sont attribuées. Le directeur de publication, le pasteur Ravelzon, n'est que membre correspondant de l'Académie et il n'y met jamais les pieds, tandis que l'un de ses collaborateurs, le pasteur Henri Ranzavula, est membre titulaire. Il est vrai que Ravelzon est suspecté d'avoir fait partie d'une société secrète anticoloniale et a été arrêté 5 mois, puis relâché faute de preuves en 1916. De façon beaucoup plus tangible, il prêche dans toutes les paroisses réformées de Lille, dans l'entre-deux-guerres, évoquant le temps, je cite, « où nos frères français ne seront plus là », fin de citation, et la capacité du peuple japonais à un changement culturel sans colonisation. Son élection au Conseil supérieur des colonies en 1939 apparaît bien comme une modalité supplémentaire du complexe malentendu opératoire colonial, ainsi que son refus de rallier l'insurrection de 1947 le démontrera bientôt. La révolution de 1972 suscite le départ progressif des Français, donc fondateur de l'université, et la parole des premiers enseignants-chercheurs nationaux circule désormais beaucoup plus largement, alors que le défaut d'ancrage universitaire constituait une faiblesse de l'ensemble des institutions savantes de l'Empire français. De fait, la consécration de la première génération scientifique postcoloniale est réservée à ceux qui ont accédé aux échelons les plus prestigieux du savoir occidental. Durant la crise politique de 2002, au plus fort du combat factionnel, des hommages solennels sont ainsi associés au décès successif de Césaire Rabnour, le deuxième président malgache de l'Académie, docteur en pharmacie et docteur d'État en sciences politiques, et d'Albert Rakout Ratsimamang, déjà cité. Le siège monumental de l'Académie introduit aussi une continuité topographique rassurante et ambivalente entre le colonial et le postcolonial, comme en quelque sorte un miroir paysager renvoyant simultanément au jeu impérial de l'identité et de la différence, déjà évoqué, et à l'appropriation nationale du territoire. Jusqu'en 1958, année de fondation de l'État républicain, dans le cadre encore limitatif de la communauté, l'Académie occupe une maison de style victorien précolonial. Celle-ci est construite en lisière du complexe scientifique inauguré en 1936 par l'ouverture d'un parc botanique à Tsimbazaz et renforcé 10 ans plus tard par la création d'un institut de la recherche scientifique de Madagascar, devenu en 1953 une antenne de l'Orstom. La création de l'État postcolonial suscite un partage physique de ce bâtiment entre l'Orstom et l'Académie dans un processus associant, me semble-t-il, la contingence la plus immédiate et même imprévisible et une véritable logique d'assimilation des élites scientifiques résidentes, à laquelle j'ai fait référence. Le bâtiment plus vaste que l'État colonial développementiste des années 50 venait d'achever pour l'Académie échoua en fait à l'Assemblée nationale, un peu dans l'urgence, de telle sorte que l'ex-société savante impériale partage quelques années le même toit que les expatriés de l'Empire finissant. L'office va ensuite migrer vers une autre localisation. Malgré l'ambiguïté de cette transition, ou peut-être tout autant grâce à elle, l'Académie malgache est demeurée pendant près de 40 ans le seul lieu de mémoire véritablement consensuel de l'État postcolonial, jusqu'à ce que le président Didier Ratsiraka tolère en 1999 l'érection d'un buste de Philibert Tsirenana à côté de la stèle de l'indépendance dressée en plein cœur de la capitale sur la place du même nom. La bibliothèque de l'Académie, quant à elle, contrairement à celle de l'Assemblée nationale, toute proche, à 300 mètres, n'a été pillée ni pendant la révolution nationaliste de 1972, ni pendant la grève générale associée à la transition démocratique en 1991. La pérennité des lieux est associée à celle d'un rituel civique, méticuleux et stable, scandé par le protocole des séances plénières et la routine un peu plus intimiste des sections, ainsi que par la présence, dans la vaste salle d'honneur, d'un petit nombre d'objets symboliques renvoyant tous à la souveraineté du savoir, au respect du droit et à l'appropriation de l'État-nation. Drapeau national, portrait du chef de l'État, petite table de l'orateur placée un peu de côté et en position avancée par rapport à la tribune, toute simple, austère, du bureau. Tous les signes visibles d'une république d'instituteurs voués au bien public sont donc restés en place. La préservation de ce havre de paix, dans le lent processus de désinstitutionnalisation de la vie politique malgache, n'est pas dépourvue de similitudes avec, en quelque sorte, la coalescence coloniale des relations concrètes de pouvoir. Le caractère schizophrénique, pour reprendre le mot de Burbank et Cooper, de l'Empire français des années d'après-guerre, avec son impossible mélange de répression massive et de promotion civique, n'est pas dépourvu d'analogie avec la contradiction majeure de l'État malgache postcolonial. Ce dernier affirme un modèle de domination et il prétend modifier les vies, mais il a bien peu à offrir à une société possédant déjà sa propre déclinaison du droit au sol. Au-delà du pathos investissant le moment des indépendances, on peut ainsi se demander dans quelle mesure les mêmes causes ne produisent pas les mêmes effets. Un État aux finances rares et aux cadres peu nombreux, contraint de juxtaposer des lieux de sociabilité trop différents pour former un véritable espace public. Plus que de trahison des élites, il est ici question d'une béance entre les arts de faire du quotidien, pour reprendre la formule de Michel de Certeau, et les bases théoriques de la légitimité politique. J'aborde à présent la troisième partie de mon propos, Je me suis efforcé d'aller relativement vite. Je ne sais pas si je suis dans les temps.
Il reste un quart d'heure à peine.
C'est parfait.
Mais c'est bien. Hein.
C'est parfait. Donc, un espace public résiduel. La résilience de l'Académie malgache ne se laisse pas enfermer dans la fascination pour l'héritage de la mission civilisatrice et dans la logique réticulaire, disais-je, d'une société de notables. Cela va bien au-delà, me semble-t-il. Cette académie, cette dernière, fait des situations de... la logique réticulaire de notables de cette société malgache fait des situations de retrait un critère de distinction sociale, à l'image de ce qui se joue, comme en Afrique subsaharienne, dans la floraison des cénacles initiatiques, des séminaires partisans, des associations d'anciens élèves, des institutions européennes et nord-américaines de formation. Considérées dans une durée plus longue et transversale par rapport à la rencontre coloniale et à son lent dénouement, les séances de l'Académie ne constituent pas le pur simulacre de ses missions officielles. Ce n'est pas seulement cela. Il s'y noue des transactions culturelles plus profondes, mobilisant toutes les traces mémorielles d'une société dans laquelle la question de la rencontre avec l'autre est très antérieure à la conquête coloniale et n'a cessé de s'élargir dans un contexte d'infériorité géopolitique permanente. À l'intérieur des limites d'audience fixées par la cooptation, bien des choses, en fait, peuvent être dites, ou mieux encore, effleurées. À l'écart d'une astreinte d'autocensure et de rétorsion physique pure et simple, caractérisant la société malgache. C'est ce que j'ai eu l'occasion ailleurs d'appeler l'usage chirurgical de la violence, qui serait en quelque sorte une spécificité de la Grande Île. En tout cas, une caractéristique qui me paraît tout à fait notable. Le degré d'interconnaissance des présents et le partage d'une connaissance très fine des règles de la parole publique, le discours oratoire dit « kabari », autorise des échanges échappant, en fait, à l'hôte étranger de passage. À cet égard, les routines de l'Académie sont aux universitaires, aux grands cadres administratifs et à leurs protégés, ce que les compétitions sportives, les productions médiatiques interactives, à la radio en particulier, depuis la libéralisation des ondes, et à leurs protégés, donc, ces routines sont à cette élite ce que les compétitions sportives, les productions médiatiques interactives et les spectacles de variété sont pour le plus large public, surtout citadin. Les dits et les non-dits sur le lien social permettent en filigrane la mise en dialogue de la greffe de l'État weberien, héritée du moment des indépendances et d'une archéologie patiente des savoirs indigènes sur le lien social et sur le pouvoir. Cette dernière emprunte des chemins contingents et souvent fort sinueux. Il y est question de la pharmacopée insulaire, de la modalité malgache du retour des rois, à travers la multiplication de rituels calendaires remaniés, ou encore à travers la multiplication des associations de descendants de souverains, les Anjin. À titre d'exemple, on citera une communication prononcée lors du colloque « Société » au pluriel, « Valeurs » pluriel, au pluriel et « Développement » au singulier, fin de citation, organisée les 29 et 30 juillet 2002 dans le cadre du centenaire de l'Académie. L'auteur, Lucille Rabé-Armanen, est académicienne elle-même et professeure d'histoire à la faculté des lettres de Tananarive. Le titre mérite d'être cité in extenso. Les associations d'Anjin à Nimern, leur contribution à la préservation des valeurs culturelles et à la formation de la nation malgache. Derrière cette formulation consensuelle, les sinuosités de l'exposé laissent entendre une grande pluralité de voix. Elles associent une vigoureuse condamnation de la réinvention des prérogatives aristocratiques, une fascination pour un patrimoine symbolique contribuant à combattre la dislocation de l'imaginaire national et l'imposture de l'idéal du développement, une difficulté manifeste à concilier le respect de toutes les identifications insulaires avec celui de la modernisation conservatrice du royaume Mérne. Droit naturel, reconstruction nationale, ethnicité morale se croisent sans se rejoindre, dans une forme de dialogisme sans caractérisation formelle et sans conclusion. Cet entrelac conduit à questionner l'épaisseur concrète d'une vision historienne selon laquelle le champ discursif de la décolonisation pourrait être réduit à un face-à-face entre des discours dérivatifs sur l'État et des actes de dissidence populaire peu verbalisés. Il faut ainsi poser le problème dans les termes plus généraux du changement culturel et se demander dans quelle mesure l'élite malgache la plus confrontée aux catégories de la pensée occidentale se trouve en situation d'énoncer frontalement les enjeux profonds de la légitimité politique. C'est la question du décentrement du regard, telle qu'elle est posée, par exemple, par Chakrabarti dans un ouvrage qui me paraît moins polémique que son titre ne le laisse augurer. En tout état de cause, ces enjeux de l'indigénisation des savoirs sociaux sont au cœur de ce que Bourdieu appelle le champ du pensable politiquement. La société malgache apparaît engagée dans une brèche historique, pour reprendre la formule d'Arendt, entre les héritages très anciens d'une conception héroïque du pouvoir, au sens de Marshall Soins, selon laquelle la personne physique et morale du souverain résume l'ensemble de l'histoire et des identifications politiques et le catéchisme de la modernité démocratique plus ou moins imposée. Devant cette modalité locale de la négociation entre le modèle de la domination légale rationnelle et celui de la monarchie sacrée, question classique de l'anthropologie politique, l'Académie malgache apparaît comme un relais privilégié de ces lieux de mémoire postcoloniaux que sont les colloques à connotation historique, pour reprendre la formule de Kocri-Vidrovitch, appliquée à la multiplication des commémorations savantes du moment colonial en Afrique occidentale francophone. La réinvention des frontières de l'ethnicité, léguée par la bibliothèque coloniale, est beaucoup plus difficile parce qu'elle interfère avec l'instrumentalisation des identifications collectives telle qu'elle est orchestrée par le combat factionnel. Le débat sur la notion de population régionale s'éteint en fait dans les années 70 à l'Académie, et celui sur la construction dynamique des frontières ethniques au sens de Barthes est ignoré. Sans doute y a-t-il là précisément une frontière. Une frontière que l'enclavement lié au naufrage des campus malgaches ne suffit pas à expliquer. Celle d'une certaine impunité notabilière associée à l'héritage colonial de la distribution inégale du savoir au bénéfice de la jeunesse tananarivienne et, à un degré moindre, du centre-sud quadrillé par les missions catholiques. Une telle inégalité se reflète dans la prépondérance écrasante du nombre des académiciens originaires des hautes terres centrales, Mérne et Betsileo. Ce caractère d'espace public résiduel, dans une société imprévisible et dangereuse, permet aussi, en termes à peine moins voilés, un débat sur la définition de soi par rapport aux autres, c'est-à-dire à tous ceux qui sont extérieurs à une population insulaire, aux phénotypes variés, mais à l'unité culturelle, somme toute, très forte. Qu'il s'agisse des croyances religieuses autochtones, des règles de parenté et du droit au sol qui lui est associé. La nationalité malgache de la quasi-totalité des membres titulaires est acquise au cours des années 70. Elle permet de repenser à nouveau frais une identification culturelle posée dès le XIXe siècle en termes de mimétisme et de rivalité. Je reprends la formule de Françoise Raison-Jourde, lorsque les missionnaires de la LMS confinent les meilleurs parmi les premiers lettrés christianisés dans un rôle de traducteur. qu'il s'agisse de préparer une réédition de la première Bible en malgache, publiée en 1835, ou de rendre possible la diffusion de la littérature religieuse étrangère. La matrice mémorielle des institutions culturelles de la cour Mérne, en particulier le Collège de théologie, lequel fournit aussi le personnel des gouverneurs de province et des premiers ministères, joue ici un rôle analogue à celui du bâti. Elle rassure sur la profondeur chronologique relative de l'introduction de la culture écrite et du christianisme dans une vision comparative sous-informée, globalisante et péjorative ou péjorante des sociétés de l'Afrique subsaharienne, tout en fournissant la preuve de l'appropriation du savoir étranger. De façon approfondie, mais presque aussi confinée, l'Académie est aussi un véritable laboratoire de construction d'une langue véritablement nationale, décrochée de la domination précoloniale du royaume Mérne de Tananarive et du choix linguistique d'opportunité effectué dès les premières années de la conquête. Ce travail de fond, organisé par un centre des langues créé au sein de l'Académie en 1993, culmine en septembre 2002 dans l'élaboration d'un dictionnaire encyclopédique malgache publié dès 2005. L'ouvrage, inaccessible bien sûr à la plupart de ses lecteurs potentiels pour une raison de coût, a mobilisé 135 collaborateurs originaires de l'ensemble de la Grande Île. Il présente tous les régiolectes parlés à Madagascar à partir des entrées du malgache officiel, réduisant ainsi la langue nationale à une simple valeur d'usage, fédératrice, pragmatique, d'une identification nationale. Cette entreprise de sécurisation linguistique doit être placée en contrepoint de l'adoption impromptue, en 2007, du trilinguisme officiel malgache, français et anglais, fondu à l'intérieur d'un référendum visant surtout à renforcer le pouvoir présidentiel. Et je conclus. Au terme de l'exposé, on voudrait d'abord interroger la réalité et la limite de l'exemplarité de cette société savante impériale devenue un outil du nationalisme culturel. L'élection en 1958 d'un médecin malgache pasteurien est compatible avec l'idée d'un « nous » impérial, différentialiste, infléchi dans un sens plus égalitaire. Son successeur élu en 1973, Césaire Rabnour, a fait une carrière d'ambassadeur et de grand commis des projets d'aménagement rural de la Première République. Il apparaît cependant très vite comme l'homme du continuum entre cette vision encore marquée par l'idée de citoyenneté impériale associée à la formule de la communauté française, d'une part, la revendication globalisante d'une différence culturelle sous les espèces de la malgachéité, d'autre part. Malgré la tentative d'unification sous l'autorité de la monarchie tananarivienne au XIXe siècle, la définition d'une tradition parfaite de l'État-nation apparaît ici largement rétroactive et conditionnée par le recul de l'ethnétisation savante de l'érudition coloniale au moment même où le combat factionnel tend à durcir les frontières entre les groupes culturels, ou en tout cas les groupes régionaux de la Grande Île. Conservatoire de l'idéal du développement, lieu de mémoire de la transaction hégémonique avec l'ancienne puissance impériale et cellule résiduelle, en quelque sorte, d'un véritable débat public sur les savoirs indigènes, l'Académie nationale malgache apparaissait en 2002 comme la possible fabrique d'une reformulation post-impériale de la notion de développement politique. Il est difficile, toutefois, de ne pas évoquer le nouvel isolement auquel la condamne la période ouverte en 2009, caractérisée par un paroxysme inégalé du combat factionnel et par un processus de fragmentation générale des institutions. Le relevé des concaténations avec l'univers d'expérience et l'arène politique du temps impérial nous permet certes d'échapper à une vision globalisante et téléologique de la décolonisation. Comme le démontrent les pilleurs et les incendiaires de février 2009 dans la capitale malgache, cette mise à plat historienne des subjectivités ne doit pas occulter le gouffre désormais béant, entre les institutions étatiques et l'ensemble de ceux qu'elles ne font plus du tout rêver. Je vous remercie.
Merci Didier Galibert. Eh bien, écoutez, je donne tout de suite la parole au professeur Alessandro Triulzi de l'Université de Naples, qui est nommé de ce très joli nom l'Oriental. Et d'ailleurs, avec lui, nous allons découvrir un autre univers impérial, ou du moins un univers impérial un peu qui n'a pas su se développer tellement, mais qui n'en a pas moins été travaillé par cet empire raté, en quelque sorte, l'Italie.
Oui. Bon. Bonjour à tous. Je vous remercie de l'invitation, évidemment. Mais je remercie aussi pour avoir invité à une réflexion sur ce que les organisateurs appellent l'artisanat de l'histoire. Et je pense que c'est dans ce contexte que je vais vous parler du mal d'Afrique italien. Un mal qui n'est pas seulement italien, je pense. Et je veux tâcher de déconstruire ce mot très abusé et vous montrer la spécificité italienne. Si la page coloniale de l'Italie a duré environ 60 ans, comment sa mémoire s'est-elle élaborée les 60 années suivantes ? Que reste-t-il aujourd'hui du passé colonial, de ses ambitions et de ses velléités, de ses rêves et de ses tensions, aussi que de ses deuils et de ses échecs ? Voilà deux questions qui confrontent l'historien contemporain, qui doit s'interroger sur son propre travail de chercheur, mais aussi en Italie, sur la plus vaste question d'histoire nationale, maintes fois soulevée ces dernières années, à savoir si dans l'Italie d'aujourd'hui, où les politiques de mémoire sont souvent manipulées en faveur d'une réconciliation fictive qui tend à nier toute mémoire alternative ou opposée, la recherche d'une mémoire partagée dans le domaine colonial est en mesure de réconcilier les blessures du passé avec les besoins du présent. Quel est le rôle que l'enjeu colonial joue donc aujourd'hui dans la formation de la mémoire nationale, ou pour mieux dire, de sa narration publique? Voilà mon problème. Cette réflexion est devenue de plus en plus urgente du moment où la question coloniale et sa mémorisation croisent et entrent en collision dans mon pays avec la question migratoire. Moi-même, étant passé, pour ainsi dire, du front africaniste à la frontière migratoire, je ne peux pas me retenir d'y être engagé frontalement. Cette condition, si banale qu'elle soit, m'a frappé tout particulièrement lorsque, en écrivant cette intervention cet été, j'ai assisté à l'arrivée du colonel Gaddafi en Italie à fin août 2010. Pour fêter l'anniversaire du traité d'amitié, de partenariat et de coopération signé à Benghazi au mois d'août 2008 avec son ami et partenaire en affaires et notre président du Conseil, Silvio Berlusconi. Le colonel libyen est arrivé à Rome comme auparavant, entouré par un apparat de surcharge exotique qui a rappelé, tout en les questionnant, le traditionnel mal d'Afrique italien et ses imaginaires picaresques. La tente nomade dressée en ville, les jeunes Amazones en costume militaire qui entourent le leader quand il descend de l'avion, les 30 chevaux pur sang qui font leur fantasia la nuit à côté des carabinieri. Les Italiens ahuris et désabusés par les exploits de leur premier ministre ont vu le leader libyen prêcher l'islam européen devant quelques centaines de jeunes filles sélectionnées et payées par la nouvelle académie libyque à Rome, avant de se promener de bonne heure le soir dans la ville sainte, qu'il n'avait pu visiter jusqu'en 2009 à cause du contentieux colonial avec l'ancienne métropole. Ce contentieux, le plus long et inextricable pour l'Italie de l'après-guerre, se terminait le 30 août 2008 par une promesse de réparation de 5 milliards de dollars à l'ex-colonie. Les excuses formelles du Premier ministre italien et l'engagement du gouvernement libyen de fournir plus de pétrole et moins de migrants aux nouveaux alliés en échange de fournitures militaires pour le contrôle frontalier de son territoire. La réconciliation avec l'ancienne puissance coloniale se réalisait ainsi à travers un accord bipartisan avec le gouvernement libyen pour empêcher que les immigrants irréguliers dits clandestins chez nous, en provenance de l'Afrique subsaharienne, n'arrivent pas sur les côtes italiennes. Un bon coup pour les deux leaders transgressifs, un mauvais coup pour l'Afrique et pour les droits de l'homme. Renversant l'ancien pacte colonial, la Libye s'engageait ainsi à devenir le gendarme outre-mer de l'Italie postcoloniale. Le traité de Benghazi a tout de suite montré sa capacité de frapper. Le 30 février 2009, le Parlement italien l'approuva sans problème. Les ex-communistes, le votant ainsi que les ex-fascistes et les gens de la Ligue du Nord, dans une mise en scène politique de réconciliation nationale. Le 6 mai suivant, les opérations navales conjointes Italie-Libye ont commencé à effectuer le refoulement en mer de tout bateau partant des côtes nord-africaines, sans aucun respect des droits d'asile pour les migrants qu'ils transportaient. C'était la fermeture de la route LL, c'est-à-dire Libye-Lampedusa, qui avait entraîné en Italie près de 10% de la migration irrégulière, mais qui fournissait 90% des demandeurs d'asile africains. Voilà le côté obscur de ce traité. Pour certains, le chef-d'œuvre de la diplomatie italienne, pour d'autres, tout simplement, le traité de la honte, le mal d'Africa, qui dénotait la passion africaine des Italiens pendant la colonisation et qui révélait plus proprement la nostalgie de l'Empire perdu après la guerre et la chute du fascisme, a repris vigueur dans l'Italie de Berlusconi et de la Ligue, dans les deux sens traditionnels, comme nostalgie d'un rapport préférentiel qu'on a perdu et qu'on tâche de regagner à tout prix, et comme rancune pour une Afrique une fois aimée, mais aujourd'hui sans frein, qui afflige la post-colonie italienne avec ses débris humains. Les phobies sécuritaires de la droite au pouvoir ont ainsi permis et rendu nécessaire l'accord de réconciliation avec les leaders libyens. Les forts intérêts économiques italiens dans la région, évidemment, ont servi à justifier les excuses formelles, mais en réalité de façade, de pure façade, du président du Conseil, et les réparations monétaires dilatées sur 20 ans ont rassuré soit les bons pensants que les investisseurs italiens sur la tenue du pays dans la nouvelle affaire africaine. Le fait que le respect des droits de l'homme pour les migrants n'était ni mentionné ni promis dans les rencontres ou les actes officiels des deux gouvernements faisait partie d'un mal d'Afrique plus vaste, qui était pour plusieurs le vrai scandale de la nouvelle entente cordiale entre Berlusconi et Gaddafi. Ce nouveau et contradictoire mal d'Afrique continue à atteindre aujourd'hui, je regrette de le dire, la mémoire officielle de l'Italie postcoloniale. Le traité d'amitié et de coopération avec la Libye de Gaddafi l'a bien montré, lorsque, dans un pot-pourri rhétorique et vide où tout se mêle et se confond, le passé colonial est réparé au prix d'un virulent présent anti-immigré. Encore une fois, ce n'est pas le passé colonial en tant que tel, mais son mauvais usage qui est le vrai mal d'Afrique du pays. Voilà, de mon point de vue, la vraie fin de l'Empire. Une fin fort équivoque, teinte de nostalgie et de rancune, transmise comme structure de mémoire réconciliée, lorsqu'elle cache en réalité une revendication de réel politique qui réconcilie uniquement les besoins économiques et les anxiétés sécuritaires de la classe politique au pouvoir. Rien de nouveau, me diriez-vous ? Oui, rien de nouveau. Mais une fourberie en plus, la prétention d'avoir clos les contentieux coloniaux au moment même où on ouvre un autre, cette fois-ci post-colonial. Pour expliquer comment on est arrivé à cette impasse, il est peut-être utile de résumer quelques données historiques sur l'usage qu'on a fait du passé colonial en Italie. et sur la vraie malaise, le mal d'Afrique, qu'il révèle avec ses controverses en jeu pour la mémoire postcoloniale. Je note en passant que sur Wikipédia, je m'excuse pour une citation non orthodoxe dans ce contexte, mais continue à apparaître un terme « mal d'Afrique » qui est dans une version qui est dite « pas définitive » due aux différentes et contradictoires significations du terme. Mais trois significations principales sont retenues. On dit « le mal d'Afrique serait la nostalgie de celui qui a été en Afrique et voudrait y revenir ». À l'époque fasciste, ce serait l'effort humain économique de l'expansion coloniale italienne. Métaphoriquement, ce serait les synonymes d'une maladie réputée être africaine, comme le sida. On voit tout de suite comment le terme sert à combler des champs sémantiquement différents, où les sentiments prévalents et la nostalgie, qui, tels que la saudade lusophone, prédominent sur la raison, et la maladie semble l'emporter sur la passion politique. C'est du reste, si je comprends bien, ce qui arrive à son équivalent français, le mal d'Afrique. Si l'on croit à Guillaume Bon, photojournaliste, qui en présentant son œuvre « Mal d'Afrique, Journey into Old and New Africa », le fait de la suivante façon. « So many people have tried to define the feeling the French call mal d'Afrique, which in fact is a disease. The English never had a definition for it. » Dans ma présentation, je veux me servir de ce terme galvaudé, car rien comme ce mot, à mon avis, exprime la malaise de la mémoire africaine et coloniale de mon pays et de ses multiples contradictoires significations pour le présent. Les historiens italiens se sont longuement interrogés sur la raison de cette longue vague de refoulement et d'amnésie coloniale qui attrapait les pays tout entiers au lendemain de la guerre. On dirait que les Italiens, traumatisés par l'issue désastreuse de la guerre et de la perte soudaine des colonies suite à la défaite militaire subis à l'outre-mer, ont mis de côté les rêves et les passions qui avaient caractérisé la période coloniale, notamment pendant les fascismes, en oubliant vite les fastes et les crimes réalisés autour de l'Empire colonial, élevé en 1936 et terminé à peine 5 ans après. Une fois revenus chez eux, après un retour difficile, des années de prison souvent plus longs que la durée de l'Empire, ils ont été entraînés dans la dure réalité de l'après-guerre, et de la reconstruction plus que par les souvenirs, pour beaucoup douloureux, de la brève illusion coloniale. Malgré les efforts de tous les gouvernements italiens d'après-guerre de récupérer au moins en partie les colonies perdues et de reconstruire les bases d'un consensus interne et international autour de la politique d'outre-mer du pays, les forces politiques et le gouvernement de l'Italie post-fasciste ne parvenait à convaincre ni les nouveaux alliés ni leurs concitoyens sur la bienveillance et les qualités de la vite apaisée conscience coloniale de l'Italie républicaine. En effet, dans l'après-guerre, la renonciation formait la toute possession coloniale de la part de l'Italie, imposée par les traités de paix de 1947, empêchait la classe politique italienne de participer en tant qu'acteur au processus de décolonisation. Politiquement, cela aurait peut-être pu être un avantage, mais ne le fut pas. N'ayant plus de colonies ni de colons, en lutte entre eux, la décolonisation n'a pas été vécue en Italie comme dans les autres puissances coloniales. L'article 23 du traité de paix, l'Italie renonce à tout droit et titre sur les territoires coloniaux en Afrique, a été simplement la contribution forcée du pays à la décolonisation. Cela va éviter à l'Italie les déchirements et les blessures des négociations ou des guerres qui ont accompagné partout les procès d'indépendance, mais aussi ça va empêcher le patrimoine des luttes, d'engagement collectif et d'émancipation politique qui vont marquer son chemin, soit en Afrique, soit en Europe. Le fait que l'Italie est déjà « décolonisée » entre guillemets à la fin de la guerre ne permet pas à mon pays de promouvoir ni d'élaborer sa décolonisation interne, c'est-à-dire dans les esprits, les sentiments, les mentalités collectives de la population. L'ancienne métropole étant privée de l'Afrique, il ne lui reste que son image spéculaire, l'oubli, le refoulement ou la nostalgie, tous ingrédient typique du mal d'Africain qui, dans l'absence de l'Afrique, revient puissant sous son mal, exotique et rancunier. Tout ceci explique en partie seulement l'amnésie coloniale du pays et le refus de comprendre et d'élaborer ces mélanges ambigus de culpabilité et de revanche qui a caractérisé le non-souvenir du passé colonial dans l'après-guerre. La position pro-occidentale de tout gouvernement italien de l'époque, le faux alibi de nation civilisatrice conféré à l'Italie par le mandat d'administration fiduciaire sur la Somalie par les Nations Unies, et surtout la non-volonté de poursuivre les crimes les plus violents commis dans les anciennes colonies, témoignent la détermination de la classe politique italienne, au-delà des positionnements politiques, de ne pas permettre que la question coloniale devienne une autre fracture dans la mémoire coloniale, dans la mémoire nationale. L'Italie officielle de l'après-guerre, dans sa hâte de tourner la page et d'assainir une page douloureuse d'histoire nationale, annulait ainsi les souvenirs du passé. C'était le refoulement dans la culture de notre pays du phénomène colonial dans son entièreté. Les années de la décolonisation se passaient ainsi sans sursaut ni trauma, particulier en Italie. La crise économique, la nouvelle position internationale et la recherche de meilleurs standards de vie pour la population envahissent les espaces de vie et les préoccupations des Italiens. Les informations provenant des anciennes colonies ne troublent pas plus que ça les consciences et l'onde des batailles du tiers-monde trouve plus d'écho dans les débats politiques et dans les positions des partis politiques et dans l'opinion publique. Dans l'Italie des années 60, on ne parle plus de colonies. Le passé impérial du pays ne trouve plus de zone d'intérêt ou d'attention dans les médias et est minimisé, édulcoré ou simplement supprimé des livres et des programmes scolaires. La page coloniale de l'Italie était en outre absente de la littérature italienne comme des arts dans l'après-guerre et personne ne regrettait, après les excès de la littérature de propagande et de production mémorialiste des années 20 et 30 d'origine fasciste, que les thèmes coloniaux ne fussent pas l'objet de débats ou d'attention de la part du public. Les rares cas contraires et les voix des dissensions ou les cris d'alarme d'universitaires isolés étaient rapidement marginalisés, alors que les représentations critiques de la période coloniale italienne, comme le film Il Leone del Deserto, produit par la Libye, paradoxalement, étaient également marginalisées, sinon filtrées et cachées aux yeux des Italiens. En réalité, depuis longtemps, les chercheurs avaient signalé les dangers de la singulière dérive historiographique incarnée par la mémoire coloniale italienne. Une non-mémoire pleine de contradictions et d'amnésie, silencieuse et pourtant latente, qui reflétait les parallèles manques de volonté des institutions et dans une certaine mesure des universitaires eux-mêmes de se mesurer de façon critique avec le passé colonial, controversé de la nation et ses actuels héritages. Le retard retentissant de la production historiographique sur le passé colonial était dû à plusieurs facteurs. Au fur et à mesure que les historiens coloniaux qui avaient vécu et représenté la période impériale et celle de la première décolonisation laissent la place à la relève, cette dernière doit se confronter à des difficultés objectives. Le travail de recherche étant entravé par des conditions d'accès aux archives difficiles, par une culture académique indifférente sinon hostile aux disciplines africanistes créées dans les années 60, et par l'amoindrissement du prestige de l'histoire coloniale dans la sphère de l'histoire contemporaine. Les trous de mémoire de l'historiographie coloniale et de la décolonisation, ainsi que l'incapacité des historiens italiens à faire le bilan de la colonisation de la nation, ont marqué une double marginalisation qui a longuement caractérisé les recherches portant sur l'Afrique dans l'Italie d'après-guerre. Ici comme ailleurs, l'histoire coloniale a été perçue par rapport à l'histoire nationale comme une histoire de rôle secondaire. Et l'histoire naissante de l'Afrique a eu du mal à s'affirmer dans l'univers académique jusqu'au milieu des années 80 comme une discipline scientifiquement acceptable. Contrairement à ce qui est arrivé ailleurs, ce seront des facteurs externes aux disciplines historiques et à l'évolution des area studies qui vont fournir en Italie les stimuli nécessaires à un virage décisif dans ce domaine. Deux facteurs en particulier vont combler le vide de mémoire coloniale en Italie, l'arrivée de nouveaux migrants provenant de l'Afrique, surtout de la Corne, et la nouvelle littérature africaine italophone qui émane et reflète la nouvelle présence africaine dans le pays. Dans l'Italie de ces années, il y a une croissante, comme vous savez, vague migratoire qui transforme de facto mon pays dans un pays multiethnique et multiculturel en près de 20 ans. Je remarque que depuis en 1970, en Italie, il y avait 170 étrangers et aujourd'hui, il y a 5 millions d'étrangers non italiens en Italie. Et ce qui a apporté des réactions des régimes, mais aussi d'inclusion et d'ouverture intéressantes. Et la soudaine apparition sur le sol italien des migrants africains voit aujourd'hui un nombre faible mais significatif des gens provenant des anciennes colonies. Et cette nouvelle présence va fournir pour beaucoup d'Italiens la première occasion depuis un demi-siècle de voir à leur côté dans la rue, au marché, aux arrêts du bus ou devant un bureau de travail, des ex-sujets coloniaux avec qui il fallait se confronter et concurrencer. La présence d'Africains généralement pauvres et sans papiers est perçue au début par les autorités italiennes et par les gens dans la rue comme une menace sans lien évident avec le passé colonial ou migratoire du pays, appelée au début « voie cumpra », du napolitain « veux-tu acheter », les vendeurs d'éléphants de la première heure deviendront bientôt une armée de travailleurs à bon marché pour l'économie informelle et les services domestiques, mais aussi pour la prostitution, la drogue et la petite criminalité. L'arrivée de nouveaux immigrés donnait donc lieu à des résurgences des clichés racistes et stéréotypés sur les autres et donnait l'occasion aux autorités de taper sur les étrangers définis extra-communautaires jusqu'à l'agrandissement de l'Union européenne à 27, mais à partir de la loi 2009, juillet 2009, criminalisée comme clandestin. Une charge qui vaut de 5 à 10 000 euros, la détention jusqu'à 6 mois et l'expulsion immédiate ensuite. C'est dans ce climat des citadelles assiégées que l'idée de refoulement de tout clandestin et étranger pauvre se développe et trouve des alliés, non seulement en Italie, mais en Europe et dans la Méditerranée. La nouvelle présence africaine et surtout celle de l'Est africain, l'ancienne AOI, Africa Orientale Italiana, contribue à rouvrir le débat et la mémoire sur la question coloniale jusqu'alors disparue ou refoulée. À l'improviste, l'Afrique fait sa réapparition dans les médias nationaux, mais aussi dans les maisons d'édition qui publient des romans africains. Et c'est une grandissante, je saute un petit peu, c'est une grandissante littérature italophone provenant du monde de la migration qui accompagne ce processus intéressant pour mon pays. Ce sont surtout des femmes africaines de seconde génération, issues du mariage ou des relations mixtes allant à la période coloniale, qui ont grandi et étudié en Italie en apprenant sa langue écrite, qui décident d'employer cette langue dans leur écriture pour explorer les relations entre Italiens et non-Italiens. C'est la première fois qu'il y a une littérature italophone dans mon pays. Et c'est quelque chose de très important, je pense. Ces femmes nous confient pour la première fois un regard interne sur les interstices et les zones d'ombre de la colonisation d'antan, le vécu quotidien, les émotions et la violence des relations mixtes sur le terrain colonial. Ce sont des écrivaines éthiopiennes, somaliennes et érythréennes qui vont apprendre à la nouvelle génération d'Italiens ce que les historiens n'ont pas été capables de dévoiler sur le temps des colonies. Les historiens et l'opinion publique en sont traumatisés. Un jour, tu seras notre voix qui raconte. Tu vas traverser la mer qu'ont traversé Pierre et Paul et tu porteras nos histoires dans la terre des Italiens. Tu seras la voix de notre histoire qui ne veut pas être oubliée. C'est avec ce mot que la jeune écrivaine italo-éthiopienne Gabriella Germandi commence sa guirlande de fleurs et de perles qu'elle extrait du jardin enchanté, comme elle dit, de sa terre maternelle d'Éthiopie, en la mêlant avec la terre de son père bolognais. La promesse faite à l'ancien grand-père Jacob de raconter l'histoire de son pays sous l'occupation fasciste est le motif dominant de son œuvre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous raconte son histoire. Elle écrit, qui est aussi la mienne, mais est la vôtre aussi. Enfin, les demandes de réparation provenant des anciennes colonies, en particulier l'Éthiopie et la Libye, secouent la mémoire nationale dans les années 90 en l'emmenant forcément sur le terrain colonial. Je parle la possibilité de lire tout. Il y a le retour de l'obélisque d'Aksum, vous savez, qui était promis de le remettre en Italie, en l'Éthiopie en 1947 et qui est arrivé plus de 50 ans après. Il faut donc tenir compte de tout ça dans l'Italie et des flambées du débat que soit la nouvelle littérature italophone, soit les réparations dues au passé colonial ont porté au devant de la scène tous les divers fragments de la mémoire coloniale qui étaient présentes dans le pays et qui aujourd'hui tâchent d'être recomposées dans une mémoire partagée. Ce sera cette multiplicité de mémoires qui commencera progressivement à faire les bilans les unes avec les autres, non sans hésitation, contre-choc et relance ces toutes dernières années. Ainsi, la mémoire coloniale et son pendant dans le mal d'Afrique a refait surface dans la société italienne, suivant des parcours d'appartenance et d'exclusion qui ont accompagné les 10 dernières années d'histoire nationale. Les premières résurgences des nostalgies coloniales surviennent l'été 1992 lorsque le gouvernement italien décide d'envoyer un contingent militaire en Somalie dans le cadre de l'intervention humanitaire des Nations Unies « Restore Hope ». L'intervention italienne trouve à l'époque un large consensus en Italie, notamment à la suite de la position conciliatrice prise par les contingents italiens en opposition avec le commandement américain qui guidait les opérations sur le terrain, mais aussi par une réplication de vieux clichés des Italiens bonnes gens que leur présence dans la région somalienne introduit dans le débat public. Et c'est dans ce contexte que le gouvernement italien proposa un nouveau mandat international des Nations Unies sur l'ancienne colonie. Ce fut un feu de paille passager. 3 ans plus tard, lors du centenaire de la bataille d'Adwa, un nouveau syndrome, celui de la défaite de Adwa, attrape le gouvernement italien invité formellement à s'associer aux commémorations officielles organisées par le gouvernement éthiopien, mais le gouvernement décide, en raison des prochaines élections politiques, mais aussi de peur de devoir soutenir une confrontation politique sur le passé colonial de la nation, de ne pas participer à la commémoration officielle d'une bataille qu'il considérait une honte dans l'histoire du pays. Mais ce sera surtout les conflits entre l'Éthiopie et l'Érythrée. De 1988 à 2000, le long de la frontière coloniale, a constitué les témoignages les plus significatifs sur l'ambiguë résurgence du souvenir colonial en Italie et sur les vagues de refoulement et non-dits qui affligent depuis lors les relations entre l'Italie postcoloniale et ses anciennes colonies. C'est pendant ces conflits sanglants, autour de l'ancienne frontière coloniale, que des revendications répétées paraissent dans la presse éthiopienne, montrant tout le poids de la mémoire refoulée au sujet de l'ancien allié érythréen, accusé d'avoir repris les aspirations expansionnistes et hégémoniques héritées du colonisateur italien. Il en suivit une intense guerre des mots dans les médias locaux internationaux et surtout sur Internet, qui accompagnera les conflits des frontières jusqu'à la fin. Les accusations de fascisme, de colonialisme arrogant et de fils et héritiers de vieux colonisateurs italiens sont ainsi amplifiées au cours du conflit par l'utilisation et la manipulation du matériel de propagande de guerre utilisé pendant l'occupation de l'Éthiopie par l'Italie fasciste. Cette fois-ci, le mal d'Africa venait de plus loin. Il engageait une mémoire de la présence italienne sur place qui servait à tracer une frontière morale entre 2 États africains qui marquaient ainsi leur symbole d'appartenance et de rejet. D'un côté, l'Éthiopie, qui ranimait la mémoire anti-italienne, la tournant contre les troupes érythréennes de l'ex-armée coloniale qui avaient soutenu l'agression contre leur pays en 1996 et 1935. De l'autre côté, l'Érythrée, qui s'était libérée de l'occupation éthiopienne après 30 ans de guerre et qui s'obstinait à tirer la formation de son territoire de la colonisation italienne. La controverse autour de l'ancienne frontière coloniale entre Éthiopie et Érythrée, qui a entraîné environ 100 000 morts et 500 000 réfugiés en 30 mois de guerre, a brutalement rappelé de quelle façon la mémoire coloniale peut être assujettie à des révisions, des remodelages, des refoulements, non seulement dans l'ancienne métropole, mais aussi dans les anciennes colonies. En Italie, la guerre entre Éthiopiens et Érythréens a rappelé que les ressortissants des anciennes colonies, les enfants de la migration, vont revendiquer un demain la mémoire de leur propre passé colonial qui va remettre en question celle encore latente qui traverse aujourd'hui la société italienne. Une telle mémoire ne pourra pas se confronter aux actuelles formes de nostalgie ou de rancœur coloniale, ni être annexée par les clichés d'antan qui empoisonnent aujourd'hui les relations avec les descendants des anciens sujets, les nouveaux indigènes de la République, tels que les gens du sud de l'Italie ont été appelés jusque hier. Dans un pays avec presque 5 millions d'habitants dépourvus de droits politiques, la demande des citoyennetés et d'appartenance, car c'est là, à mon avis, la vraie question, et c'est là peut-être aussi la réponse à la fin des empires aux yeux des Africains, la demande de citoyenneté et d'appartenance doit nécessairement passer par la reconnaissance critique d'un passé troublé et la mise en question de la longue durée des structures de supériorité et de racisme qui sont encore présents dans la société italienne. Ce n'est pas un hasard si ces retours des colonies sont souvent aigris et empruntés des pulsions de possession ou de rejet, car la rencontre entre les anciens colonisateurs et colonisés sur le terrain métropolitain ressent aujourd'hui des rapports codifiés de domination qui avaient été construits en colonie. C'est donc, et je termine, dans ce contexte que la récente irruption exotique et transgressive de Kadhafi en Italie doit être envisagée, à mon avis. On ne peut pas vraiment se réconcilier ou se reconnaître à travers des mises en scène rhétoriques, les excuses officielles de M. Berlusconi, ou un échange inégal et perfide tel que celui entre migrants et pétrole voulu par les gouvernements libyens et italiens aux dépenses des droits de l'homme. La réconciliation, si elle doit avoir lieu, passe à travers une œuvre lente et critique de reconnaissance des torts du passé et de reconstruction des rapports d'appartenance et donc de représentation, non des dominations politiques. La société italienne aujourd'hui est plus riche et contradictoire de ce que l'on pense, et la gestion de la mémoire coloniale trouve des échos et des rebours non seulement dans les prises des positions des politiciens ou des anciens coloniaux, mais dans les mémoires, les témoignages et les volontés d'appartenance des descendants des anciens colonisés, les migrants et les immigrés de seconde génération. C'est dans ce lien étroit entre mémoire coloniale et voix migrante qu'on se confronte aujourd'hui en Italie, tout comme le fait ailleurs en Europe, où le spectre de nouveaux arrivants, surtout les plus pauvres et sans papier, s'accompagne souvent avec le renversement de l'ancienne nostalgie pour l'Afrique. Comme l'a dit Ruth Yob, une politologue d'origine érythréenne, je cite en anglais, « The mal d'Africa of the 19th century » has been supplanted by the mal d'Europa of the 20th century. The trekkers are no longer colonists seeking new lands, but former subjects in search of an escape from the former colonia and heading to the metropoli in order to avoid the post-colonist distinctive regime of violence. This reversal of roles and paths point to the need to re-examine and reassess Italo-African relations in the colonial and post-colonial periods. Le refus de la classe dirigeante italienne d'encourager une relecture critique du passé colonial en proposant une mémoire superficielle de réconciliation qui fond et confond conscience et émotion antagonistes ne va pas, à mon avis, dans la bonne direction. Une telle mémoire ne peut que conduire à des nouvelles ambiguïtés et réticences, à des nouveaux maux intarissables. En est la preuve, terrible, le mandat confié par le gouvernement italien d'aujourd'hui aux autorités de Tripoli de freiner le flux d'immigrants africains en partance de la Libye en créant des camps d'accueil et d'expulsion aménagés dans les mêmes endroits où l'Italie fasciste avait créé les camps de concentration qui devaient éradiquer les populations rebelles du territoire libyen dans les années 30. C'est affreux. C'est dans cette feinte continuelle des références et des souvenirs aplanis dans le temps que se consomme aujourd'hui, ou s'annule peut-être, les mémoires antagonistes de l'Italie coloniale. Il faudra attendre encore quelque temps pour obtenir la reconnaissance réclamée des fautes coloniales et des obligations de nature morale prises en Afrique par mon pays. La reprise d'un vrai débat sur la question coloniale en Italie attend la résolution positive de la question migratoire. Le refoulement, dans les deux cas, n'aide pas beaucoup. Je vous remercie de votre attention.
Merci beaucoup, Alessandro Triuzzi. Je signale d'ailleurs que, juste comme c'est une information, le musée de l'immigration à Paris est occupé par les travailleurs sans papiers.
Entre parenthèses. Je ferme la parenthèse.